Usando un café para...
Dans le noir, dans ce qu'on appelle la projection. Je ne vais pas refaire toute l'introduction que nous avons vue hier, simplement pour dire ceci. Même s'il y a un côté technique, exégétique de ce que nous allons voir, le but est profondément spirituel, profondément pratique. Il n'y a rien de plus pratique que mieux connaître le Christ. C'est pour ça que j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ne téléphone pas, je ne sais pas comment. Connaître le Christ, et parce que il y a une chose que j'ai apprise. Voilà, il y a des chaises. C'est que mieux on connaît Jésus, mieux on l'aime, ou mieux, plus on le haït, on le hait. Et donc ça c'est finalement le but final de notre étude aujourd'hui. Apprendre à mieux connaître et à mieux aimer le Christ. On va voir si... Il y a assez de lumière comme ça?
Oui.
Alors, je vais vous présenter, vous faire une initiation à ce qu'on appelle la lecture typologique des évangiles. Quand nous parlons de lire les évangiles, dans nos milieux religieux, il n'y a que deux modèles d'interprétation qui sont en lice. D'abord, le modèle inductif qui est massivement majoritaire. Là, c'est notre lecture par défaut quand nous prenons l'évangile dans nos mains. Et le deuxième modèle, c'est le modèle typologique. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Alors, le modèle inductif cherche dans les paroles et les gestes de Jésus, des principes. C'est ça qu'on cherche. Des principes intemporels, des principes abstraits, des principes universellement applicables de la doctrine et de la pratique chrétienne. La lecture typologique cherche dans les paroles et les gestes de Jésus des signes. Des signes qui préfigurent, qui annoncent symboliquement sa vraie identité, qui Jésus est, et sa vraie mission, ce qu'il est venu faire. Le modèle inductif voit dans la vie de disciple, c'est-à-dire la vie chrétienne, comme le thème principal des évangiles. Je dis qu'on entend souvent dire de nos jours que les évangiles sont des manuels du parfait disciple. Le modèle typologique n'a pas le disciple comme centre d'intérêt, mais le Messie, Jésus, sa messianité, son identité de Messie, ça c'est le thème principal des évangiles. L'auditoire visé par l'enseignement de Jésus selon le modèle inductif, c'est les chrétiens de toute époque. En fait, selon ce modèle, Jésus ne parle presque jamais aux gens qui sont en face de lui. Il parle aux gens de l'avenir. Modèle typologique, l'auditoire visé par Jésus, par l'enseignement de Jésus, c'est les juifs du premier siècle. C'est les gens qu'il a fréquenté, les gens parmi lesquels il vivait, les gens qu'il voulait enseigner. Selon le modèle inductif, le scénario, c'est ce qui se passe dans les évangiles, c'est que Jésus jette pêle-mêle, sans ordre apparent, un peu comme ça, au hasard, les fondements de la religion chrétienne. Il n'y a pas vraiment de structure dans les évangiles. Hein, c'est à n'importe quel moment, Jésus va établir telle ou telle doctrine. Le modèle typologique, le scénario, c'est que Jésus fait connaître, il révèle progressivement, hein, de plus en plus, le plan de Dieu. Et son but, c'est de préparer les Juifs à accueillir ce plan. Donc, il y a une progression. Et on verra cette structure plus loin. Alors, le réflexe interprétatif du modèle inductif, c'est ce qu'on fait sans réfléchir. On lit un texte et on fait ceci sans y penser. C'est automatique. On déhistoralise, je ne sais pas si c'est un mot en français, on enlève tout ce qui est historique pour extraire des vérités intemporelles. Moi, cette méthode de voir un texte un peu comme une noisette, et il faut casser la coque, il faut jeter la coque, on ne mange pas la noisette, mais on va manger la chair qui est à l'intérieur, et ça c'est le principe intemporel. Le modèle typologique, le réflexe interprétatif, on met le texte dans un contexte bien précis. Et ce contexte, c'est le dessein de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire pour réaliser son plan en faveur des hommes, en faveur de notre race. Et puis, une autre différence, le cadre chronologique du modèle inductif, c'est l'ère de l'Église. Et encore, hein, parce que parfois, il n'y a pas de cadre chronologique du tout. Hein, c'est intemporel. Hein, c'est un principe général. Le cadre chronologique de la lecture typologique, c'est le ministère de Jésus. Et on va illustrer cela. C'est peut-être le... Il faut graver cette diapositive dans votre esprit, hein, ce qu'on va voir. Ça, c'est notre contexte chronologique. On n'a besoin de rien faire pour y être, on y est. Et c'est dans ce contexte que nous lisons les évangiles. Bon, la vie de Jésus, c'est lointain, c'est tout petit. Alors pour nous, ce qui est important, c'est la vie de l'Église. Et nous imposons ce cadre au texte évangélique. La méthode typologique voit ça comme le cadre chronologique des évangiles. C'est le ministère public de Jésus, sa mort, résurrection, ascension, et la fin de la théocratie juive, la fin du système mosaïque dans le peuple d'Israël. C'est ça, le centre d'intérêt de Jésus. Et ça va faire une différence énorme. La première chose qui saute quand nous utilisons le modèle inductif, c'est le temps, c'est la chronologie. Et on balance par la fenêtre toute considération temporelle. Bon, gardez ça à l'esprit, hein. Cette diapo-là, j'aurais dû imprimer pour vous donner. Mais vous allez voir, ça fait une énorme différence de perspective. Alors, voilà un peu le schéma pour récapituler les différences. Principe ou signe? Vie chrétienne ou Jésus comme Messie? Les chrétiens de toute époque ou les juifs du premier siècle? Les fondements du christianisme non structuré ou bien une révélation progressive? Est-ce qu'il faut enlever tout ce qui est historique, extraire la chair, le principe abstrait, ou bien contextualiser historiquement dans le plan divin? Est-ce que le cadre chronologique, c'est l'ère de l'Église ou le ministère de Jésus? Vous voyez la différence, même sur le plan théorique, il y a une nette différence entre ces deux lectures. Et ça donne des résultats nettement différents. Alors, il y a deux concepts, deux idées, deux notions vraiment fondamentales pour mettre les récits de l'Évangile dans leur contexte. Et maintenant, je vais définir les termes que j'ai utilisés hier soir, mais sans les définir. On va les définir maintenant. Le dessein de Dieu est la structure de l'œuvre révélatrice de Jésus, c'est-à-dire le scénario des Évangiles. La Bible est essentiellement une histoire. Ce n'est pas essentiellement un manuel de doctrine et de pratique. Bon, il y a des doctrines, il y a des consignes pour la vie pratique, mais essentiellement, dans son essence, la Bible raconte une histoire. Elle raconte comment Dieu fait connaître petit à petit, dans l'histoire humaine, son dessein à l'égard de notre race, son plan, ses intentions pour nous. Dans les évangiles, et ça se voit plus clairement dans l'évangile selon Jean, connaître Dieu, connaître son nom, connaître sa parole, connaître sa gloire, ça signifie la même chose. Toutes ces expressions ont le même sens. C'est comprendre le dessein de Dieu pour l'homme et nous y intégrer par la foi. C'est ça connaître Dieu. C'est ça connaître son nom. Connaître sa gloire. Les êtres humains peuvent avoir accès au Père, au Créateur de l'univers, par l'intermédiaire de l'homme, Jésus de Nazareth, qui est le Logos, la parole devenue chair. Ça, c'est vraiment le message des évangiles. Par sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus est élevé à une position de souveraineté, d'autorité suprême sur l'univers. Il devient roi par sa mort, sa résurrection et ascension. Pourquoi est-ce que Jésus nous est présenté comme roi? Pourquoi fallait-il que Jésus devienne un roi? Bon, pour nous, dans les démocraties occidentales, être roi, bon, ce n'est pas un compliment. Non, nous, c'est le pouvoir au peuple. On s'est débarrassé de nos rois il y a plusieurs siècles en France. Mais Jésus est roi. Pourquoi? Pourquoi fallait-il devenir roi? Parce qu'il fallait qu'il ait le pouvoir de vaincre le péché et la mort. Si moi, je vous disais, je vous promets de pardonner vos péchés et de vous donner la vie éternelle. Est-ce que vous me croiriez? Moi, non. Parce que je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas cette autorité. Il fallait que Jésus procède l'autorité sur la vie et la mort, sur le mal, le péché, la justice, pour qu'il nous accorde ses bienfaits. Sinon, tout son enseignement, c'est des paroles en l'air. On a regardé les hommes politiques, on peut promettre ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on peut garder ses promesses, n'est-ce pas? Ben, la promesse par excellence de Jésus, c'est d'accorder aux êtres humains la vie éternelle dans le monde céleste du Père. C'est ça la bombe atomique de la révélation de Jésus. Jésus n'est pas venu nous dire aimer Dieu et aimer le prochain. L'Ancien Testament disait déjà cela. Quand Jésus dit ça, il cite l'Ancien Testament. Ce n'est pas une nouvelle révélation. La nouvelle révélation que Jésus apporte, c'est la vie éternelle. Ça, c'est notre destinée. Ça, c'est le sens de notre vie. Voilà pourquoi c'est pratique. C'est éminemment pratique de savoir qui est vraiment Jésus et ce qu'il est vraiment venu faire. C'est la base de notre vie. Alors, je vais redire ceci pour définir le dessein de Dieu en utilisant un schéma On a le temps que d'effleurer ce schéma. L'histoire est divisée par les Juifs en deux parties. Il y a qui correspond grosso modo à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Le temps de l'Ancien Testament, c'est un temps de préparation. Dieu prépare la venue de son Messie. Tout ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, il le fait sous le signe de préparation. Et pendant ce temps, son plan est caché. Bon, il donne quelques indices, mais son plan de vie éternelle est caché. Abraham ne savait pas que l'homme était destiné à vivre éternellement avec Dieu au ciel. Moïse ne le savait pas, David ne le savait pas, Ésaïe ne le savait pas, Jean-Baptiste ne le savait pas. C'est Jésus qui nous apporte cette réponse. Le plan de Dieu est caché et le Nouveau Testament va dire, je ne sais combien de fois, le plan qui était caché depuis des siècles est maintenant révélé. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Ce plan est réalisé par Jésus et le plan de Dieu, enfin, notre destinée, le sens de notre vie est connu. Comment ? Quel est ce plan ? Deux choses. La rédemption, la vie éternelle. Le pardon n'est pas le but final de l'œuvre de Jésus. Le but final, Jésus nous pardonne pour que nous puissions avoir accès au ciel, à la présence de Dieu. La rédemption, finalement, c'est la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 6, Jésus dit, telle est la volonté de mon Père. C'est pour ça que je suis venu sur la terre, pour donner aux âmes la vie et je les ressusciterai au dernier jour. Ça c'est en Jean 6, 40. Soulignez ce verset dans vos Bibles. Et le deuxième aspect du plan de Dieu, c'est le règne du Christ sur l'univers, sur Israël et sur le monde entier. On lui donne le pouvoir pour accomplir ses promesses de vie et de pardon. Et ça se réalise par un triple événement, trois événements différents qui n'en font qu'un en réalité. C'est sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts et son ascension au ciel. Ça c'est l'évangile. Là c'est la Bible entière. Et l'évangile, c'est au centre. On va regarder ça dans ce texte du livre des Actes. C'est l'apôtre Pierre qui parle devant le Sanhédrin, le conseil supérieur des Juifs. Et voici ce qu'il va dire. Ce verset, il faut souligner dans votre Bible, ce verset est extraordinaire parce qu'il résume tout l'évangile en une phrase. On va regarder. Le Dieu de vos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur. Le Dieu de nos ancêtres, c'est les Juifs, les ancêtres des Sanhérites. Et là, Pierre fait allusion à tout l'Ancien Testament. Le Dieu qui s'est révélé à vos ancêtres, les Juifs. Ce Dieu-là a rendu la vie à Jésus. Ça, c'est la résurrection, n'est-ce pas? Que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. C'est la mort de Jésus. Dieu l'a élevé à sa droite, c'est l'ascension. La droite, c'est le trône de Dieu. C'est pour que Jésus règne sur l'univers. Et l'a établi comme chef, c'est le règne. Et sauveur, c'est la rédemption. Voilà les cinq mots qui définissent le dessein de Dieu. Quand j'utilise cette expression, le dessein de Dieu, je veux dire l'accomplissement de la rédemption des hommes l'établissement du règne du Christ par la mort, résurrection et l'ascension de Jésus de Nazareth. Ça, c'est l'évangile. Vous lisez le livre des Actes, c'est ça qui est prêché. D'accord ? Par Paul, Pierre, tous les apôtres. Ça, c'est l'évangile. Pas l'évangile de la vie du disciple. C'est l'évangile du Messie, Jésus-Christ, roi et rédempteur. Ça, c'est le cœur du message. Ça, c'est la foi chrétienne là. Alors, nous allons maintenant regarder la structure des évangiles, le scénario. L'évangile de Jean divise tout cet événement Jésus en deux parties. Il divise la vie de Jésus en deux, en ce qui concerne son œuvre de révélation. Premièrement, il y a ce que j'appelle le ministère public de Jésus auprès des Juifs. Et puis deuxièmement, l'œuvre de Jésus, H majuscule. Jean et Jésus en parlent beaucoup dans l'évangile de Jean. Son heure, hein, il va dire, n'est pas encore venue, mon heure est venue, etc. L'heure, c'est la fin de sa vie. Son ministère public est composé de paroles, d'enseignements, de signes, et puis plus généralement, d'œuvres, miraculeuses ou pas. Hein? C'est des choses que Jésus va faire ou dire pour préparer, en fait, la grande révélation de l'heure. Cette grande révélation de l'heure est composée de trois événements, ce triple événement, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, auquel on ajoute un quatrième événement, le don de l'Esprit-Saint, que Jésus fait après sa résurrection et ascension. Voilà comment Jean divise le ministère de Jésus dans son évangile. Et on trouve cette division presque dans chaque chapitre. Jésus ou Jean lui-même, ils font allusion, très souvent. Par exemple, Jésus dit à ses disciples dans la chambre haute, aux apôtres, « Je vous ai dit cela de façon énigmatique ou en parabole. » Parfois, c'est traduit comme ça. Autrement dit, pendant le ministère public, Jésus annonçait le dessein de Dieu, mais en image, symboliquement, par des paraboles, par des signes qu'il fallait interpréter. C'est presque une contradiction dans les termes, c'était une révélation voilée, énigmatique. Elle vient, l'heure, H majuscule, l'heure où je ne vous parlerai plus de façon énigmatique, mais où je vous communiquerai ouvertement le Père. Jésus va révéler pleinement le dessein de Dieu pour les hommes au moment de sa mort, résurrection, ascension et suivant. C'est comme ça. Ça, c'est la structure de l'évangile selon Jean. C'est la structure du ministère de Jésus selon l'évangile de Jean. Mais on va essayer en nous reportant aux trois autres évangiles qu'on appelle les synoptiques, à Matthieu, Marc et Luc. On va voir ça plus en détail. Alors, le ministère de Jésus commence par la proclamation. C'est la première chose que Jésus fait dans son ministère public. Il prêche, il fait une proclamation. Et vous voyez, ça va continuer jusqu'à sa mort. Jésus commence cette proclamation et il continue pendant tout son ministère. Quelle est cette proclamation? Marc 1, verset 15. Soulignez ce verset. Vraiment, c'est la clé pour comprendre ce que Jésus dit dans les évangiles. C'est l'évangile. Le temps est accompli, c'est chronologique. D'accord? Le message de Jésus est avant tout chronologique. Le temps est accompli et le règne de Dieu, le règne du Messie, s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ça, c'est ce que Jésus prêche du premier jour de son ministère jusqu'à sa mort sur la croix. Sur la croix, Jésus prêchait la même chose. Alors, le message de Jésus au peuple juif, le règne du Messie sur Israël et le monde est chronologiquement proche. Pourquoi est-ce que les gens viennent voir Jean-Baptiste par milliers? Pourquoi ils suivent Jésus partout? Pas simplement à cause des miracles. Parce qu'il a annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce règne que les Juifs attendent depuis des siècles et des siècles, il est maintenant proche. Croyez, c'est une bonne nouvelle pour les Juifs? Bien sûr. C'est pour ça qu'on vient écouter Jésus. Tout le monde attend ce règne. Et puis, il faut vous y préparer, Jésus dit aux Juifs, en changeant votre façon de penser Dieu et son dessein. La repentance, moi je préfère la traduction de la conversion. La repentance que Jésus prêche, ce n'est pas simplement « Oh, je regrette mes péchés et je promets de changer. » Ce n'est pas ça. Le mot « conversion » veut dire « changement de pensée ». Les Juifs se trompent gravement sur Dieu et son dessein et sur ce règne du Messie. Et cette erreur de pensée les empêche de recevoir le Messie que Dieu leur envoie. Et Jésus dit, il faut changer votre façon de penser. Il faut vous mettre sur la même longueur d'onde que Dieu. Sinon, vous allez rater le règne. Pas le message de Jésus. Faut m'arrêter, hein, ou je continue. Alors, deuxième chose que Jésus fait chronologiquement dans son ministère, commence à faire des miracles. À partir du changement de l'eau en vin à Cana. C'est le premier signe. Et il va faire des miracles tout au long de sa vie, jusque dans le jardin où il est arrêté. Il va faire des miracles. Il fait des miracles. C'est la deuxième étape. Imaginez que Jésus est dans une voiture et il change de vitesse. Ben là, il change en seconde là. Même si vous ne me croyez pas quand je parle, si vous ne croyez pas mes enseignements, au moins croyez les œuvres. Croyez les œuvres. En fait, les signes signifient la même chose que la proclamation de Jésus. Jésus est en train de montrer par les signes que le règne était proche et en quoi consistait ce règne. Ça, c'est un sujet passionnant. On va voir un peu plus tard. Troisième chose qu'il fait, bon, en haut c'est public, en bas c'est pour les apôtres. Il va choisir 12 apôtres pour l'aider dans ce travail. Parce qu'il est tout seul. Il y a tout Israël à évangéliser, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc il va choisir des associés. Et il va les associer justement à son ministère. Proclamer que le règne des cieux s'est approché. Bon, ils disent la même chose que Jésus. Guérissez les malades, ils font les mêmes miracles que Jésus. Ils font ce que Jésus fait. Exactement. Et Jésus dit, n'allez pas chez les païens. Parce que là, on est en territoire juif, son ministère vise les juifs. Pas encore le moment de faire intervenir les païens. Donc ça, c'est l'institution des 12 apôtres. Et ils vont rester avec Jésus tout le reste de sa vie. Donc les apôtres exercent en Israël le même ministère de Jésus. C'est une extension de l'œuvre que Jésus fait. Proclamation, miracle. Alors troisièmement, à un moment donné, dans les évangiles, chez Matthieu, c'est Matthieu chapitre 13, Marc, c'est Marc chapitre 4, Luc, c'est Luc chapitre 8, Jésus commence à raconter ce qu'on appelle les paraboles du règne, les paraboles du royaume. Et il change de vitesse, hein. C'est net, c'est quelque chose que Jésus ne faisait pas, et maintenant il commence à faire. À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu, le règne du Messie? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? Une parabole, on va le voir, c'est une comparaison. Attention, ce n'est pas une fable avec une morale. Ce n'est pas de la fontaine ici, c'est Jésus. C'est un prophète juif. Il utilise les paraboles comme les prophètes utilisaient les paraboles. Ce n'est pas pour donner une morale. Important. C'est une comparaison pour aider les gens à comprendre ce qui se passe ici. Et puis, cinquièmement, presque tout de suite, quand Jésus commence à parler, à donner des paraboles du royaume, il commence à révéler aux apôtres ce que Jésus appelle les mystères du règne. Il explique les paraboles. Bon, ça ne veut pas dire que les apôtres comprennent les explications. Ils ne comprendront pas les explications. Mais Jésus commence déjà à leur accorder une révélation qui ne donne pas au grand public. À vous mes apôtres, les douze, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, les mystères du règne du Messie qui arrive. Mais pour les autres, c'est un parabole. Malheureusement, les apôtres ne vont rien comprendre. C'est pour ça que Jésus, vous savez, Jésus les traite assez durement. À un moment donné, il dit « âme sans intelligence ». Quelle traduction fade. Idiot. C'est ce qu'on dirait. Imbécile. Mais pourquoi est-ce que vous êtes si lent? Combien de temps est-ce que je dois rester avec vous? Ils ne sont pas très forts pour la foi. Alors, c'est quoi le mystère du règne? C'est des vérités sur le dessein de Dieu que Jésus n'a pas encore révélées. Il a révélé certaines choses. Le règne est proche. Il faut changer votre façon de penser. Mais il y a autre chose sur ce règne qui n'a pas encore révélé. Qui vont être révélés, mais pas encore. Par exemple, l'origine céleste de Jésus. Les Juifs n'attendaient pas un Messie qui descend du ciel. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est une chose cachée. Mystère, ça veut dire une chose cachée. Sa mort, sa résurrection, son ascension, c'est des choses choquantes pour les Juifs. Jésus commence à révéler ces choses à ses apôtres. Son règne est parti du ciel. Les Juifs attendent un Messie qui va régner à Jérusalem, sur un empire juif. Ils n'attendent pas un Messie qui règne à partir du ciel. C'est une chose cachée. La fin de la théocratie mosaïque, la fin du temple, la fin de la loi, la fin d'Israël, c'est une chose cachée et qui choque ses auditeurs. Jésus révèle ces choses petit à petit et dit que les gens ne sont pas prêts à attendre la vérité toute nue, toute crue. Il commence, il dit en parabole parce qu'ils ne sont capables que de ça. La vie éternelle. Vous savez, il y a un incident, Jean chapitre 8. Jésus a un gros conflit. Vraiment, quand on lit ça, ce chapitre, est-ce que c'est Jésus ça? Parce que verbalement, c'est très violent. Jésus va appeler ses interlocuteurs, c'est des Juifs, vous êtes des enfants de Satan. À un moment donné, Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Or, les Juifs, ils commencent à se moquer. Oh, maintenant, on sait. On savait que tu étais bizarre, mais maintenant on sait, t'es complètement fou.
Dieu va nous donner la vie éternelle et quoi encore? C'est vrai. Lisez ça, Jean chapitre 8. On sait maintenant que tu as un démon, tu es possédé. Ah, c'est ça. Tu nous promets que nous ne mourrions jamais. Ah ben, on est mort. Hein? Tous les patriarches, tous les ancêtres, ils sont morts. Mais toi, tu nous promets la vie éternelle. Ha ha. Quelle blague. C'est un mystère. Jésus ne peut pas dire ces choses toutes crues. Le peuple n'est pas préparé. Le peuple est si loin de Dieu qu'ils ne sont pas prêts. Alors, finalement, Jésus voit que ça passe pas. Donc, il va faire trois annonces dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Trois annonces pas imagées du tout. Il va annoncer, et les mettre, je vais mourir. Moi, le Messie, je serai livré aux mains des Romains. Et on me mettra à mort. Trois fois, il dit. Ça ne suffit pas. Poup. Les apôtres ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent rien entendre parler de cela. Jésus dit, vous les apôtres, mettez-vous bien ceci dans la tête. Faites rentrer ça dans le crâne. Jésus dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Réaction typique des apôtres. Mais ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger sur ce point. Vous ne voulez rien savoir. Ça les troublait. Hein? Là, il y a une tension extrême entre ce que Jésus dit et ce que les apôtres croient. Et ils essaient de cacher cette tension. Parce qu'ils croient que Jésus est le Messie. Mais ce que Jésus dit ne correspond pas à ce qu'ils veulent pour le Messie. Donc ils ferment les yeux, ils ne veulent pas savoir. Jésus parle de sa mort, ils ne veulent pas savoir. Jésus parle de son ascension, ils ne veulent pas savoir. Ça ne correspond pas à leur idéal de l'Empire juif. Et puis finalement, la septième étape, et c'est très marqué dans l'évangile de Jean, l'heure de Jésus commence au moment où Judas sort de la pièce pour aller chercher la troupe et arrêter Jésus. Officiellement, c'est le commencement de l'heure. Jésus va dire, mon heure est venue. Et il va dire même à Judas, ce que tu as à faire, fais-le sans tarder. Le moment est là. Et Judas a un dernier choix. Il a déjà choisi les ténèbres. Maintenant, son choix est définitif. Il a déjà trahi, en principe, mais maintenant il va réaliser cette trahison. Et Jean dit, il sortit, ce fut la nuit. Judas entre dans les ténèbres de l'incrédulité. Et ça c'est le début, ça c'est la fin du ministère de Jésus, son ministère public, c'est le début de son. Vous voyez, il y a une structure. Pas que Jésus, il va de lieu en lieu en donnant pêle-mêle des doctrines chrétiennes. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une structure. Et si on ne tient pas de cette structure, on ne va pas comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle. On va parachuter dans un endroit en faisant abstraction de cette histoire. Parce que vous vous souvenez, ce qu'on cherche, c'est des principes abstraits. C'est des principes universels. Donc il faut faire abstraction de la vraie histoire. Alors voilà, ces choses se passent simultanément. D'accord? Voilà ce qu'on a jusqu'à la fin du ministère de Jésus. Pour garder ce diapo-là aussi, ça nous aidera beaucoup à comprendre ce qui se passe. Alors, on va regarder un peu comment fait le modèle inductif. C'est vrai, Dans le modèle inductif, on fait ce travail d'identifier des éléments historiques, culturels, le contexte dans lequel Jésus parle. On fait ce travail. On identifie ces éléments. Mais pourquoi? Pour les découper. C'est la coque. Pas besoin. On va les identifier pour les jeter et en arriver à la chair, à ce qu'on veut vraiment, c'est le principe. À mon avis, grosse erreur. Parce que Dieu se fait connaître dans l'histoire. Dieu ne se fait pas connaître par des principes abstraits. Il se fait connaître en agissant, en intervenant dans l'histoire des hommes, c'est ce qu'il fait depuis le début. Et ça marque, c'est la différence entre le christianisme et toute autre religion. L'islam, désolé, n'est pas une religion historique. Il n'y a que la religion biblique, le judaïsme biblique et le christianisme qui sont des religions historiques où Dieu se fait connaître dans l'histoire. Très important. Si on enlève les événements historiques, on n'a plus rien. On a des principes comme les proverbes, etc. Alors, généraliser les données particulières pour arriver à un principe abstrait nous paraît à nous, hommes du 21e siècle, tout à fait normal, naturel. On dirait bien la méthode scientifique. Nous sommes c'est vrai sur la méthode scientifique. On apprend à la maternelle. On apprend à l'école primaire, au collège, au lycée, la fac. Et notre société nous dit que la méthode scientifique est la seule façon de connaître ce qui est vraiment réel et vrai. Donc, appliquer ça à la Bible, pour nous, ça va de soi. Il n'y a pas de problème. On connaît là. Mais ce n'est pas le principe de lecture des rédacteurs du Nouveau Testament. Ça, c'est notre point de vue. Alors, on va commencer. Là, c'était la partie théorique. Maintenant, on va regarder des exemples. Et ce que simplement je voudrais faire est quelle différence ça fait? Quelle est la différence entre ces deux méthodes? Quels sont les résultats? Alors, j'ai choisi un texte du Sermon sur la montagne. Ok? Ça ne va pas être aussi facile que ça en l'air. Hein. Je veux dire, je vous fais travailler hein, aujourd'hui. Jésus dit, « Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. L'offrande, c'est quoi cette offrande? Là, c'est une des offrandes prescrites par la loi de Moïse. Les offrandes n'étaient pas nécessairement des animaux. On pouvait offrir de l'huile, du vin, du blé, des pains. Il y avait un tas d'offrandes qu'on pouvait faire. Mais c'est une de ces offrandes-là, pas une offrande spirituelle ou autre, c'est une offrande physique qu'un juif amenait au temple, selon la loi de Moïse. L'autel, c'est la table de pierre située à l'intérieur du temple de Jérusalem. C'est ça, l'autel. Les juifs venaient, ils donnaient l'offrande au prêtre, sacrificateur, et le prêtre amenait ça à l'autel. Cette image, historiquement, est juste. Et le frère qui est offensé, ce n'est pas un chrétien. Il n'y a pas de chrétien dans les évangiles. Je ne veux pas vous décevoir, il n'y a pas un seul chrétien dans les évangiles. Pas un seul. Même pas Pierre. Le frère, c'est un juif. C'est un compatriote juif. Tout cela se passe à l'intérieur d'Israël. Alors, le mode inductif, c'est bon, hein, peut-être identifier ces facteurs, mais on les jette. Ça, c'est des trucs négligeables. Hein, c'est l'autel du temple, c'est l'offrande de la loi de Moïse, c'est des juifs, mais ça, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est le principe. N'est-ce pas? Donc, on prend cette coque et on jette à la poubelle pour manger la chair. Et bon, ça finit par, avant de participer à l'adoration publique de Dieu, le chrétien doit se réconcilier avec son frère dans la foi. Quelque chose comme ça. Puisqu'elle m'a appris un verbe l'autre jour, il existe un nouveau verbe en français, ça s'appelle « googler ». Ça veut dire « chercher avec Google » sur l'Internet. « Googler ». Mais j'ai googlé ce texte de Jésus. Et j'ai trouvé, je ne sais pas, centaines ou plus de sermons, d'études sur ce texte. Et le sujet, dans chaque cas, c'était la réconciliation entre chrétiens. Et franchement, les études étaient bien. Moi, je ne critique pas. J'ai vraiment de bonnes idées sur la réconciliation chrétienne. Seulement, on est passé à côté complètement de ce que Jésus cherche à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ces études sur la réconciliation sont fausses. Ou bidon, non, c'est bien. Mais, on n'a pas compris ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quelques-uns des meilleurs sermons que j'ai jamais entendus n'avaient rien à voir avec le texte cité. Ça va? Ça va? Mais vraiment, ça va. Mais un jour, il va falloir en venir à comprendre le texte, n'est-ce pas? Si on veut connaître Jésus. Alors, à quoi ressemble une lecture typologique de ce même texte? Mais là, ça va être un peu plus compliqué, surtout qu'on n'a pas l'habitude. D'accord? On va replacer le passage dans le contexte du dessein de Dieu. Hein, vous vous souvenez de ce truc avec les lignes, le ministère public de Jésus. Qu'est-ce que Jésus cherche à dire ici aux Juifs? Dieu a donné la loi de Moïse pour préparer Israël à l'avènement du Messie. C'est ça le but, hein? Le but final de la loi de Moïse était de préparer le peuple juif. Pour que quand Jésus vienne, Israël sache l'accueillir. D'accord? Ça, c'est le but. Jésus le dit. Ça, c'est le but. Paul le dit. Deuxième. Mais quand Jésus vient, Israël n'est pas prêt à l'accueillir. Ni lui, ni ce que j'appelle son programme messianique. C'est-à-dire, il doit mourir, ressusciter, monter au ciel. Fin du système mosaïque, rédemption, règne. Ils ne sont pas prêts à accepter ça. Ils ne sont pas prêts à accepter ce genre de Messie. Pourquoi? Bon, on a deux choses. La loi a été donnée pour les préparer. Ils ne sont pas préparés. Conclusion que Jésus tire. Les Juifs ne gardent pas la loi. Ils n'ont rien compris à l'Ancien Testament. Ils croyaient que l'Ancien Testament, que la religion, est une question de garder les rites et tout ça. Et ils ont raté le sens de l'Ancien Testament. Jésus va le dire explicitement plusieurs fois. Vous n'avez rien compris à l'Ancien Testament. Il dit ça à des gens qui connaissent l'Ancien Testament presque par cœur. Et vous n'avez rien compris. Parce que si vous avez compris, vous croirez en moi. Ils avaient fait de la loi un monument, comme ils ont fait du temple, même chose, un monument nationaliste, légaliste et sectaire, dédié à leur propre gloire religieuse et ethnique. C'est ça. Le temple ne s'était pas érigé à la gloire de Dieu. mais la gloire d'Israël. Ce n'est pas le sujet, mais ça c'est... On pourrait poursuivre cette idée-là. Et Jésus le reproche de cela. Alors, troisième chose. La loi a été donnée pour vous préparer. Vous n'êtes pas préparé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer quelque chose, n'est-ce pas? Jésus appelle les Juifs à se convertir, à changer leur façon de penser Dieu, sa volonté présente, c'est-à-dire la façon dont ils pratiquent la religion juive, et sa volonté future, ce qu'il a, il va faire par le Messie, son programme messianique. Il faut changer votre façon de penser. Dieu n'est pas le Dieu nationaliste des Juifs, comme vous le pensez. L'Ancien Testament, la loi, n'a pas été donnée pour que vous puissiez vous comparer aux païens et vous sentir supérieur aux païens. Et le programme messianique, ce n'est pas de refaire un empire juif pour imposer la loi de Moïse et la supériorité politique des Juifs sur les nations. Ce n'est pas ça. Il faut changer votre pensée. C'est ça le message de Jésus. Chaque page, chaque texte des évangiles, c'est ça le problématique. Ce n'est pas, il faut être un meilleur disciple chrétien. Ce n'est pas ça le thème de l'évangile. Alors, le sermon sur la montagne, ce n'est pas une nouvelle loi chrétienne. C'est défini la conversion que les Juifs doivent accepter. Ils doivent changer leur façon de penser et de pratiquer la religion juive. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel? Ça, c'est la religion juive, mes amis. Les offrandes. Un temple, un autel de pierre avec des juifs, ça c'est pas le christianisme, c'est le judaïsme. Jésus n'est pas en train d'appeler les juifs à être chrétiens à cette époque. Chronologiquement, c'est faux, c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Bon, quatrième principe, une pratique authentique de la loi de Moïse, la religion juive, c'est le moyen par lequel les juifs doivent se préparer à entrer dans le règne qui vient. Comment est-ce que les juifs peuvent se préparer? Oui, il faut qu'ils pratiquent la religion comme il faut, comme Dieu le voulait. Comme ça, c'est la meilleure préparation. Et là, on s'approche vraiment d'une idée fondamentale, et je vais insister dessus. Alors, voici un passage qui a toujours embêté les chrétiens dans le sermon sur la montagne. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements de la loi de Moïse et enseignera aux hommes, aux juifs, à faire d'eux-mêmes sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Est-ce que cela veut dire que le meilleur chrétien, c'est celui qui enseigne les autres à garder la loi de Moïse? Ça? Non. Jésus ne parle pas des chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens dans les évangiles. Il parle à des juifs. À des juifs qui ne gardent pas la loi, qui sont passés complètement à côté de la plaque. Il dit, si vous voulez être préparé pour le règne qui vient, il faut être un bon juif, un vrai juif. Car je vous le dis, si votre justice est la pratique religieuse, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, les professeurs de théologie, et les pharisiens, c'était la secte la plus stricte. Non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il parle à des juifs ici. Tout ça, c'est dans un contexte juif. Alors, en obéissant à Jésus, quand les juifs écoutent Jésus dans les évangiles, quand ils obéissent à Jésus, ils ne deviendront pas des chrétiens nés de nouveau. Ça, c'est une invention du XXe siècle. ils doivent devenir de vrais juifs. Ça, c'est ma version, ça, c'est mon vocabulaire. Et c'est ça que Jésus cherche. Il cherche à faire de ses auditeurs, non pas des chrétiens, parce qu'on n'en est pas encore là. Il cherche à faire d'eux des vrais juifs, de vrais fils d'Abraham, de vrais engendrés de Dieu, qui sont non seulement descendants d'Abraham, enfants d'Abraham, mais c'est aussi enfants de Dieu. Des vrais juifs, le reste fidèles. Et ces gens-là seront en bonne voie de voir et d'entrer dans le règne du Messie. Alors, je vais exprimer ça. J'ai mis ça en gras. Tous les vrais juifs viendront à Jésus. Ça, c'est le principe. Alors, si je suis Jésus et je veux que Israël soit sauvé et que tous les vrais juifs viendront au règne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire de mes auditeurs de vrais juifs. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce qu'il cherche à faire. Que ses auditeurs viennent. Là, il ne faut pas sauter, il ne faut pas enlever la chronologie. Il veut qu'ils deviennent de vrais juifs pour pouvoir entrer dans le règne. J'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment une clé. Jésus va dire, ces juifs, ces vrais juifs, appartenaient au Père. C'était des vrais juifs, c'était des vrais enfants de Dieu, à l'intérieur d'Israël. Et Dieu les a donnés au Fils. Jésus dit ça en Jean, chapitre 17. Ils étaient à trois, et tout nous les a donnés, ces vrais juifs. Il dit en Jean chapitre 10, c'est le bon berger, mes brebis, ça c'est les vrais juifs, écoute ma voix, ça c'est les vrais juifs à l'intérieur d'Israël, mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Mon Père me les a données. Tous les vrais juifs viendront au Messie. Jésus dit même cela même à Ponce Pilate. Quand Jésus dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix », il n'est pas en train de parler de Ponce Pilate. Jésus n'est pas en train de convertir Ponce Pilate ici. Pilate a posé une question. Je ne comprends rien. Les Juifs, on livrait les Juifs qui, chaque Juif que Pilate connaît, veut l'indépendance. Ils haïssent les Romains. Et au fond d'eux-mêmes, ils veulent massacrer les Romains, les chasser d'Israël. Même les grands prêtres veulent ça. Et puis il a dit, je ne comprends plus rien, parce que les chefs des Juifs me livrent un autre Juif qui travaille pour l'indépendance. Parce que Pilate croit que c'est un crime politique. Il dit, je ne comprends plus rien. D'habitude, les Juifs ne livrent pas les Juifs. Et Jésus explique, ce ne sont pas des vrais juifs. Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Et ils n'écoutent pas ma voix. Ces gens-là, en fait, travaillent pour Satan. C'est ça l'explication que Jésus donne à Pilate. Bon, Pilate, ce n'est pas un juif. Il dit, est-ce que je suis juif? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Mais au moins, il va conclure que Jésus est innocent. Tout vrai juif viendra au Messie. Ça explique un autre texte, plus difficile, en Jean 3, Jésus dit à Nicodème, mais celui qui fait la vérité, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire faire la vérité? On veut faire un abstrait principal, comment est-ce que les païens peuvent faire la vérité, on ne comprend rien. Non, dans ce contexte juif, celui qui fait la vérité, c'est un vrai juif qui garde la vraie religion. Il appartient à Dieu. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est qui la lumière d'Israël? Jésus. Jésus me dit, je suis la lumière du monde juif. Tout vrai juif vient à la lumière. Afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Que c'est un vrai juif. que ces œuvres religieuses sont justes, sont authentiques et pas déformées comme chez les scribes et les pharisiens. Alors, le mode inductif peut engendrer des interprétations utiles, encourageantes et même parfois vraies, c'est-à-dire contredisent pas l'enseignement chrétien, tout en passant à côté du vrai sens du texte. Ça, c'est le problème. La question est de savoir, est-ce que nous voulons simplement utiliser, nous servir du texte pour encourager, enseigner, ou est-ce qu'on veut comprendre le texte? C'est deux questions différentes. Et c'est légitime d'utiliser les textes pour encourager. C'est légitime. Mais il y a un danger. Il y a un risque. Parce qu'on peut en venir à croire que c'est ça le vrai sens du texte. Il ne faut pas confondre application et exégèse, c'est-à-dire interprétation. Deux choses différentes. Alors, on va regarder un deuxième texte. Si vous voulez bien. C'est en Luc chapitre 20. C'est là où les Juifs, c'est tout le chapitre où les Juifs cherchent à prendre Jésus au piège, à le coincer, hein, avec des questions pièges. Et en voici une. S'étant posté en observation, Jésus est dans le temple, hein, Jérusalem. C'est la dernière semaine de sa vie. S'étant posté en observation, ils envoyèrent à Jésus des indicateurs, des espions, parfois c'est traduit, jouant les justes. Ah, ils font semblant d'être sincères. Ils voulaient le prendre en défaut dans ce qu'il dirait pour le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Ils veulent pousser Jésus à dire des choses contre l'Empire romain. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes de façon correcte, que tu es impartial et que tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. » C'est un piège, hein? Parce qu'il veut que Jésus s'exprime librement. « Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ?» Pénétrant le fourberie, Jésus leur dit, « Faites-moi voir une pièce d'argent, un denarius. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» Ils répondirent, « De César. » La phrase que tout le monde connaît, il leur dit, « Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, le modèle inductif, typiquement, on prend tout ce qui est historique, le denarius romain, César, les juifs, etc., et on les jette. On les considère comme étant négligeables et on cherche le principe abstrait, intemporel. Ils sont retranchés. Ça, c'est la méthode. Hein. C'est comme ça que nous lisons presque tous les versets. Alors ça donne quoi? L'obligation qui incombe aux chrétiens de payer ses impôts. C'est une bonne idée, hein? L'apôtre Paul dit qu'il faut payer en tant que chrétien. Un commandement ordonnant aux chrétiens d'accomplir ses devoirs envers l'État sans oublier les devoirs qu'il a envers Dieu. C'est bien? Pas mal. La séparation de l'Église et de l'État. Ah, ça c'est un bon principe. Moi je suis 100% d'accord avec ça. Ces principes sont bibliques. Ce n'est pas des erreurs. Mais la question, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ici? Jésus dit, ah oui, ce serait un bon jour, une belle occasion de dire aux chrétiens de payer les impôts. Non, mais c'est ça. Hein? Jésus jette pêle-mêle les doctrines chrétiennes. Alors, la question des indicateurs n'a pas trait aux obligations fiscales du chrétien envers les autorités civiles. Pas ça la question du tout. Les chrétiens doivent-ils payer les impôts? C'est pas ça. Nous est-il permis, à nous qui sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes des juifs, de nous soumettre à la domination d'une puissance païenne? Ou devons-nous nous rebeller? Ça, c'est la vraie question. Reconnaître César, c'est être infidèle à Dieu. Vous comprenez cela? Il n'y a pas aujourd'hui un truc qui s'appelle l'État islamique? Même esprit. La question vise le tribut que chaque juif en tant que membre d'une nation assujettie, conquise, vaincue, doit payer chaque année à Rome, un denarius. C'est intéressant. On sait une chose, c'est cette pièce d'argent n'a été frappée qu'à un seul endroit dans tout l'Empire romain à cette époque, c'est à Lyon. Donc on sait que Jésus a tenu dans sa main quelque chose qui venait de la France.
De la Gaule.
Ouais, voilà. De la Gaule, ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est pas les impôts. C'est pas des impôts qu'il s'agit. C'est le tribut. C'est reconnaître la domination d'une nation, d'un peuple païen sur le peuple de Dieu. Parce que pour les Juifs, le seul roi d'Israël, c'est pas César. C'est Dieu. Et c'est vrai, cette question du tribut romain avait déjà déclenché des soulèvements armés, surtout en Galilée, là d'où venait Jésus, dirigés par les zélotes. Les zélotes, c'était les terroristes de l'époque. C'était Al-Qaïda. Non, mais c'est vrai. C'était des assassins qui tuaient les collaborateurs juifs et les romains quand ils tombaient. On les coupait par la tête parce que ce n'était pas la coutume, mais ils tranchaient la gorge. C'était des assassins, des zélotes. Bon, pour les juifs, ce n'étaient pas des terroristes. C'était des combattants de la liberté nationale.
Les résistants.
Mais il y a eu des soulèvements armés à cause de ce tribut. Parce que les autres disaient, mais on n'a pas le droit de payer ce tribut. Si on n'est pas un bon juif, on est infidèle à Dieu. Pour les extrémistes juifs, payer le tribut à un empereur païen était un acte d'apostasie. Ça veut dire qu'on a renié la foi. Parce que Dieu était le seul vrai roi du peuple élu. Ces soulèvements étaient réprimés dans le sang. Or, les Romains n'étaient pas très tolérants en cela. Là, vous vous dressez contre l'Empire, on vous écrase. Et c'est ce qui va se passer au peuple juif. Parce qu'ils vont continuer à poursuivre cette idée et ça va mener à la destruction de Jérusalem. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Oui! Vous devez vous soumettre à Rome. Parce que le pouvoir que Rome a, c'est Dieu qui lui a donné ça. Lisez le prophète Daniel. C'est qui suscite des rois et qui les abaisse? C'est Dieu. Même Nabucodonosor en est venu à comprendre cela. Après avoir passé du temps à brouter de l'herbe. Rome fait partie du dessein de Dieu. Et Jésus dit, la solution, ce n'est pas de vous soulever, de faire la guerre à Rome. Ce n'est pas la solution. Si vous faites ça, vous ferez écraser. Jésus supplie ses auditeurs, ne faites pas ça. Il veut les sauver. Demain. Alors, il dit, Rendez à César ce qui est à César. Quoi? La soumission. Quelle est-il? La soumission. Pas simplement la pièce. Hein? La soumission politique. Mais c'est pas... En fait, qu'est-ce que Jésus dit? Dans la réalité. Il dit, le vrai Messie n'est pas le chef nationaliste que vous attendez. Le Messie, c'est pas un nouvel empereur qui va établir un royaume, écraser les nations païennes, imposer la loi de Moïse. C'est pas ça, le Messie. Le vrai problème, c'est que vous vous trompez. À cause de vos ambitions nationalistes, vous n'avez rien compris au dessein de Dieu. Ça, c'est le vrai problème. Le vrai, au fond. Son règne ne sera pas établi par la force des armes. Quand Jésus dit à Pierre, remets ton flingue. Bon, c'est une épée. Ceux qui vivent par l'épée, c'est-à-dire ceux qui veulent établir le règne par la violence, périront par la violence. Contrairement à ce que les Juifs attendaient, Dieu n'allait pas les aider à vaincre les Romains. Ce n'était pas son dessein. C'était leur dessein. Mais ce n'est pas fini. Jésus dit, au lieu de chercher à tuer le Messie que Dieu vous a envoyé, vous devrez plutôt croire en lui. C'est ça qu'il voit à Dieu. Et à Dieu, ce qui est à Dieu, ce n'est pas l'argent qu'on met dans l'offrande le dimanche matin. Pas ça. Un jour, on va demander à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Réponse? Croire à celui qu'il a envoyé. Vous devez à Dieu la foi dans son Messie. Voilà ce que vous devez. Alors, soumettez-vous à Rome, parce que c'est ce que Dieu veut pour l'instant, et croyez à son Messie. Ça, c'est la vraie. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas une petite leçon sur l'obligation des chrétiens de payer les impôts. On peut lire ce texte dans ce contexte, c'est bien, c'est pas faux. Mais on passe à côté.
Je me permets, dans ce contexte-là, juste avant, il y a une chasse des marchands du temple.
Oui.
Et juste après, il y a la veuve qui met ses deux pièces dans le tronc dans Luc 1. Le fait de prendre ce texte là, c'est des questions sur autour de l'argent, c'est pas rien, c'est pas juste, c'est une pièce quand même. Mm-hmm.
Oui, c'est une toute petite pièce.
Petite pièce.
Tu veux dire
la pièce d'argent, de César.
Oui, oui, oui.
C'est quand même une pièce d'argent qui est sortie là par là. Alors, est-ce qu'il y a un contexte dans Luc en tout? Enfin, je posais la question. On l'a étudié récemment et on s'était posé cette question-là du contexte de Jésus qui parle justement qu'est-ce que c'est que cet argent dans le temple et qu'est-ce que c'est que cette offrande qui est faite à Dieu, elle a donné, elle, tout ce qu'elle avait, elle a donné, elle a fait ce qu'elle a pu, la veuve. Est-ce qu'on encadrait de cela, de ce texte, est-ce qu'on peut lui donner une valeur aussi d'argent ou pas?
L'argent que
est-ce que contextualiser comme ça, si tu veux voir le contexte des idées, des événements qui se passent, c'est une erreur quand même, c'est une erreur dans l'analyse typologique.
C'est une erreur?
Est-ce que c'est une erreur dans l'analyse typologique que tu fais que d'analyser le texte en disant, bon ben, il y a des événements qui se suivent comme ça, comme dans Matthieu ou...
Un chapitre sur l'argent.
Dans Matthieu, tu as une série de paraboles sur le royaume. Ça se suit toutes les paraboles. Quel est le but de... Il y a un but qui est poursuivi par Jésus, mais quel est le but de l'auteur, en fait? Celui qui... L'auteur, c'est le Saint-Esprit, mais à travers Luc ou à travers Matthieu.
Mais c'est vrai, c'est trois incidents où l'argent joue un rôle. Et ils sont reliés dans ce sens que c'est le même contexte religieux. Cette veuve qui donne tout ce qu'elle a, elle le fait par vraie piété. Hein, c'est quelqu'un qui donne tout, alors que les autres, ils donnent leur surplus. Et même si cet argent n'était pas toujours utilisé pour Dieu, parce que les grands prêtres, ils se remplissaient les poches par ça. Et Jésus dit, vous avez fait du temple
une maison de voleurs.
Maison de voleurs. Donc c'est lié. Et quand Jésus chasse les vendeurs et les changeurs de monnaie, c'est pas simplement eux qui visaient, c'est tout le système. Tout le système était pourri, ça n'avait plus rien à faire avec Dieu. Et donc il y a l'argent, je crois que le denier de César, c'est un autre contexte. Mais la corruption du système, c'est un élément constant. Quelle heure est-il ?
Moins de 4.
Moins de 4, on va finir.
Ah, ok.
En fait, la pause est finie là.
La pause est finie.